À une certaine époque, le divorce était plutôt rare et vu comme une tare. Mais les temps ont bien changé et aujourd'hui, on se prête et on s'échange comme des biens de consommation. Sous le régime de l'Ancien Testament, les divorces sont, semble-t-il, une initiative du mari. Et la loi de Moïse ne précise pas pour quelle raison un homme peut répudier sa femme. Il s'ensuit qu'au cours des siècles, les rabbins et les écoles rabbiniques ont adopté des positions très diverses allant d'un extrême à l'autre. Certains autorisent le divorce uniquement en cas d'adultère, tandis que d'autres le permettent pour presque n'importe quelle raison, y compris une maladie qui rend la femme rituellement impure et qui donc interdit les rapports sexuels. Cependant, la loi de Moïse a le mérite d'obliger le mari à rédiger un document officiel et d'articuler ses griefs en écrivant noir sur blanc la raison pour laquelle il ne veut plus sa femme. Au premier siècle, le pharisien moyen croit normal de pouvoir se débarrasser de son épouse d'une façon arbitraire pour n'importe quelle raison. Les chefs religieux s'opposent d'ailleurs à Jésus sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres. Si la loi de Moïse est vague, le Seigneur, lui, est précis, et il met bien les points sur les i. Matthieu rapporte que des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent « Un homme a-t-il le droit de divorcer avec sa femme pour une raison quelconque ?» Il leur répondit « N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement le Créateur a créé l'être humain homme et femme, et qu'il a déclaré. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Mais les pharisiens objectèrent. Pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce d'avec elle? Il leur répondit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec vos épouses. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. » Jésus est très clair. Si Dieu a bien institué le mariage, il n'a jamais voulu le divorce. Et s'il le permet, c'est uniquement parce que l'homme et la femme sont méchants, des êtres malfaisants. De plus, la seule raison valable que Jésus invoque est l'adultère. Pourquoi donc? Parce que la relation sexuelle, telle que Dieu l'a conçue dans le mariage, est le sacrement marital par lequel les deux époux deviennent un. Mais l'adultère détruit l'alliance que les époux ont contractée. Par ailleurs, les rapports sexuels sont lourds de signification, car ils ont des implications profondes. De plus, l'exultation que procure cet acte sacré est une image du ravissement spirituel que connaîtront les croyants dans leur union à Jésus-Christ dans les cieux. Soit dit en passant, qu'avec la croissance continuelle de la pornographie et les rencontres sur Internet, il semble qu'on puisse aussi commettre l'adultère à distance. Cependant, même quand il y a eu trahison, l'époux lésé n'est pas obligé de se séparer de son conjoint infidèle. Il peut choisir de rester dans la relation et y mettre des conditions. Chaque cas est unique et les situations souvent épineuses. Comme elles sont très difficiles à gérer, surtout quand il y a de jeunes enfants, il est judicieux de faire appel à un conseiller spécialisé qui soit croyant. Non seulement les pharisiens du premier siècle ont une vue très large du divorce, mais les disciples également, car après l'enseignement de Jésus sur ce sujet, ils lui disent « Si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier ». En d'autres mots, si on ne peut pas se débarrasser de son épouse pour un oui ou pour un non. Autant ne pas s'encombrer d'une femme. Mais Jésus leur répond que ne reste pas célibataire qui veut. Je lis ce passage. Tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Cela n'est possible qu'à ceux qui ont reçu le don. Il y a ceux qui ne peuvent pas se marier parce que, de naissance, ils en sont incapables. D'autres le sont devenus par une intervention humaine. D'autres, enfin, renoncent à se marier à cause du royaume des cieux. Que celui qui est capable d'accepter cet enseignement l'accepte. L'apôtre Paul confirme les paroles du Seigneur quand, à sa première épître aux Corinthiens, il écrit « J'aimerais dire aux veufs et aux veuves que c'est une bonne chose de continuer à vivre seul, comme moi. Toutefois, s'ils ne peuvent pas se maîtriser en ce domaine, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que de se consumer en désirs insatisfaits. » Nous arrivons maintenant au quatrième oracle de Malachie. Depuis la vision d'Abdias, tous les prophètes qui le suivent parlent de la venue de ce grand jour, où la volonté des hommes sera soumise à la volonté de Dieu. Alors, il exercera sa souveraine justice pour punir les uns et accorder le salut aux autres. Au temps de Malachie. Mais c'est également vrai à toutes les époques. Les Israélites ont une vision du monde qui est très simpliste. Ils le divisent en deux, appliquent le jugement aux païens et le salut à eux-mêmes. Et comme les anciens prophètes ont rattaché le retour de l'exil babylonien au tableau majestueux du jour de l'Éternel qu'ils décrivent, les Israélites veulent tout, tout de suite, et surtout la prospérité promise. Mais cette perspective du monde ne correspond pas à la réalité des Juifs, qui, au 5e siècle avant notre ère, habitent la Palestine. En effet, ils voient les années passer sans que l'avenir glorieux qu'ils anticipent se réalise. Ce qui fait qu'ils sont gagnés par l'impatience. Ne voyant pas plus loin que le bout de leur nez, ils choisissent d'ignorer d'autres paroles prophétiques comme celle d'Ésaïe qui écrit « L'Éternel attend le moment de vous faire grâce, et il se lèvera pour vous manifester sa compassion, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui se confient en lui. » Devenus cyniques, les Juifs regardent l'Éternel leur Dieu d'un mauvais œil et vont jusqu'à le calomnier. Cependant, tous les Israélites ne sont pas pleurnichards, car les hommes pieux sont expressément nommés distincts de ceux qui murmurent. Je finis maintenant de lire le chapitre 2 de Malachie. Vous lassez l'Éternel par vos discours, et puis vous demandez « En quoi te lassons-nous ? » C'est parce que vous dites « Quiconque fait le mal est bien vu de l'Éternel, il a plaisir à ces gens-là, ou bien encore « Où est le Dieu de la justice ?» Ici encore, la question « En quoi te lassons-nous » montre combien certains Israélites sont insensibles à leur état de péché. Ils fatiguent l'Éternel à force de contester son action dans le monde. Et dans leur arrogance, ils osent l'accuser d'injustice en disant qu'il favorise les mécréants et oublie son peuple. Par leurs paroles, ils montrent combien leur culpabilité est grande, car non seulement ils ne font pas confiance en Dieu et n'ont pas foi en ses promesses, mais ils l'outragent. Cependant, l'Éternel va répondre aux accusations que les Israélites lui lancent en annonçant la venue de son jugement. Et ce sont ceux qui mettent en doute sa justice qui le subiront en premier. Les Juifs qui se plaignent sont ceux qui envient la prospérité que l'Éternel accorde au peuple païen qui les entoure. Et c'est cette jalousie, cette profonde insatisfaction de leur part qui est le point de départ du quatrième oracle de Malachie. Les impies qui prospèrent, malgré ou à cause de leur conduite ignoble, alors que ceux qui essayent de mener une vie juste sont dans la détresse, est un des problèmes vieux comme le monde, mais très sérieux. Et pour cette raison, il revient plusieurs fois dans les textes sacrés. Il est plus prononcé pour les Israélites que pour les croyants aujourd'hui, parce que l'Éternel a promis des bénédictions matérielles à son peuple s'il lui obéit. C'est vrai, mais ces promesses sont essentiellement adressées à la nation tout entière. Or, comme celle-ci est divisée et se compose d'un mélange d'hommes pieux et de personnages ignobles, Dieu ne peut pas étendre sa bénédiction sur la nation, et le juif moyen est dans la plus grande confusion. Le problème se complique encore, et nous concerne également, quand on sait que tôt ou tard, nous sommes tous victimes de tares génétiques, de maladies ou d'accidents, sans que nous soyons personnellement responsables de ce qui nous arrive. D'une part, comme témoignage de sa bonté, Dieu étend sa bénédiction autant sur le juste que sur le méchant. Mais d'autre part, tous les hommes subissent les conséquences du péché universel et meurent. Et pour amplifier encore davantage le dilemme de la souffrance du juste, il faut y rajouter une dimension spirituelle qui est la lutte de Satan contre Dieu, qui, si elle a lieu dans le monde céleste invisible, nous affecte plus ou moins directement, comme le montre bien le livre de Job. S'il arrive qu'une personne souffre à cause de son propre péché, ou de celui de ses ancêtres dans les cas d'occultisme, dans la plupart des cas, il est impossible de savoir exactement pourquoi une tragédie arrive à telle personne, ou pourquoi le malheur frappe tel autre. Nous connaissons tous des cas de détresse pour lesquels il n'y a aucune réponse au pourquoi. Personnellement, j'en ai toute une liste. Je ne sais pas s'il existe une situation plus poignante que celle de quelqu'un qui se tient à la tête et en pleurant dit « Mais qu'est-ce que j'ai donc fait au bon Dieu ?» J'ai vu et ça chez un membre de ma famille, et d'y repenser, ça me teurt encore les boyaux. La vie n'est pas juste, et la situation du méchant qui prospère paraît tellement injuste qu'elle rend perplexe le meilleur des hommes. Cette grave question est abordée par au moins 5 livres de l'Ancien Testament. Job, chapitre 21, les versets 7 à 26. 24 et les versets 1 à 17. Les psaumes 37, chapitre 73, 1 à 14. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 14. Jérémie, chapitre 12, les versets 1 à 4. Et Habacuc 1. Bien qu'aucun de ces livres ne donne de réponse, dans chaque cas, la question de la justice de Dieu est traitée en la désolidarisant du présent et en la projetant dans l'avenir lointain. C'est à la fin de l'histoire humaine que tout un chacun devra rendre des comptes au juge suprême. Alors, toutes les pendules seront remises à l'heure, car la justice triomphera. Dieu jugera les impies et récompensera les justes dans son royaume. Maintenant, quelqu'un dira peut-être, « Je ne suis pas croyant, mais je n'ai rien contre Dieu. » Entre les bons et les justes d'un côté, et les mécréants et les impies de l'autre, il y a effectivement une zone grise très étendue où se trouvent la plupart des gens, qu'ils soient indifférents à l'égard de Dieu, bien pensants ou religieux. Cependant, pour le Seigneur, cette majorité qu'on pourrait qualifier de silencieuse, parce qu'elle ne fait pas de vagues, est du mauvais côté de la barrière. Matthieu rapporte que Jésus dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler, disperse. En d'autres mots, ne pas s'engager pour le Seigneur et à ses côtés est équivalent à prendre position contre lui. Voilà des paroles à méditer. Nous arrivons maintenant au chapitre 3, qui continue le quatrième oracle de Malachie. Je commence de le lire. « Eh bien, je vais envoyer mon messager pour aplanir la route devant moi. » La venue de l'Éternel sera précédée de « un messager qui préparera la voie, qui, déblaira le terrain en quelque sorte, ce que le prophète Ésaïe a déjà annoncé quand il dit « On entend une voix qui crie dans le désert, « Dégagez un chemin pour l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour d'autres dieux. » Malachie s'inspire des paroles d'Ésaïe, et l'apôtre Jean les cite également. Plus loin dans l'oracle de Malachie, le messager, qui doit précéder la venue de l'Éternel, est appelé Élie le prophète. Il ne s'agit pas de Élie qui a exercé un ministère dans le royaume israélite des 10 tribus du Nord à l'époque du roi Achab, mais d'un Élie comme lui. Un nouvel Élie, en quelque sorte. Les évangiles citent le texte de Malachie et font de Jean-Baptiste le messager précurseur annoncé ainsi que le nouvel Élie. On sait que Jean-Baptiste a préparé la voie de Jésus, en prêchant la repentance et en annonçant que l'obstacle entre l'Éternel et son peuple est son péché. 3 années plus tard, Jésus ôta le péché du monde en l'expiant sur la croix. C'est l'Éternel qui déclare « Je vais envoyer mon messager pour aplanir la route devant moi ». Mais comme ce messager précurseur est Jean-Baptiste, celui qui parle ne peut être que Jésus. Ici, il est donc clairement identifié à l'Éternel lui-même qui vient pour établir son règne sur la terre. Je continue le texte. Et, soudain, il viendra pour entrer dans son temple, le Seigneur que vous attendez. Cette prophétie s'insère dans un ensemble de plusieurs autres. Zacharie dit que l'Éternel viendra habiter Jérusalem. Ésaïe voit les pans du vêtement du Seigneur remplir le temple. Ézéchiel annonce le retour de la gloire de l'Éternel dans le temple, qui est donc rebâti, car nous sommes au début du millénium. Jésus vient prendre possession de sa maison, où est son trône, et à partir duquel il gouvernera les nations. L'expression de Malachie, « le Seigneur que vous attendez ou désirez », est quelque peu ironique, car le prophète semble dire « Vous n'avez aucune idée de ce que sera cette venue tant réclamée, car elle ne répondra pas du tout à votre attente. » Cette prophétie de la venue du Seigneur dans son temple s'est déjà accomplie une première fois en catimini, lors de la présentation de l'enfant Jésus au temple de Jérusalem. Car selon la loi de Moïse, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. La seconde fois que Jésus est entré dans son temple fut le contraire de la discrétion, puisque c'est avec un grand tapage qu'il a chassé les marchands ambulants à coups de fouet. Je continue le texte. Le Seigneur que vous attendez, c'est l'ange de l'Alliance, appelé de vos vœux. Le voici. Il vient, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. En hébreu, le même mot est traduit par « ange » ou « messager ». L'expression « l'ange de l'Alliance » ou « messager de l'Alliance » n'apparaît qu'ici dans l'Ancien Testament. Ce messager est différent du premier qui le précède et qui est Jean-Baptiste. Ce second messager ou ange n'est pas une créature céleste, mais quelqu'un qui non seulement porte un titre divin, mais qui a aussi une dignité et une puissance divine. Il s'agit évidemment de Jésus. Dans l'Ancien Testament, il est souvent identifié à l'ange de l'Éternel, qui est la manifestation de la seconde personne de la Trinité. Les phrases parallèles « Le Seigneur que vous attendez est l'ange de l'Alliance appelé de vos vœux » ne sont pas seulement ironiques. En effet, même si beaucoup d'Israélites désirent que le Seigneur vienne pour des raisons égoïstes, pour qu'il écrase leur ennemi et les rende prospères, peu importe, sa venue est absolument certaine, parce que les prophètes l'annoncent. Jésus est appelé l'ange de l'Alliance, parce qu'il a pour mission d'établir le contrat d'alliance entre Dieu et son peuple. Ésaïe l'appelle littéralement l'ange de sa face, c'est-à-dire la face de l'Éternel. dans les livres de Moïse et dans celui de Zacharie. Il porte le nom de « ange de l'Éternel », un être qui est à la fois identifié à l'Éternel et distinct de lui. En Jésus se réalisent toutes les promesses faites sous l'Ancienne Alliance, et dans le livre des Hébreux du Nouveau Testament, il est appelé le médiateur d'une alliance nouvelle. L'annonce « Le voici, il vient » signifie qu'il s'approche, et non pas qu'il est à la porte. Depuis Abraham et jusqu'à Jésus tous les jours, Dieu fait un pas de plus en vue de sa venue et de son union parfaite avec l'humanité en la personne du Messie. Le voici, il vient, est le point d'orgue des prophéties messianiques de l'Ancien Testament, dont l'idée fondamentale est le rapprochement progressif de Dieu avec l'homme. Parce que l'Éternel est miséricordieux, il a envoyé Jésus sur terre une première fois comme sauveur. Mais tous ceux qui ne l'acceptent pas comme tel, peu importe la raison, devront le rencontrer comme juge. Dans son évangile, l'apôtre Jean écrit « Ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes. Il a remis tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. » Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. Jésus sera assis sur le grand trône blanc, et tous les hommes de tous les temps qui ne l'ont pas accepté comme leur sauveur seront jetés et punis selon la façon dont ils auront vécu. Puis ils seront tous jetés dans l'étang de feu pour y subir la peine qui leur aura été infligée en fonction de leurs mauvaises œuvres. Voilà bien des paroles qui font réfléchir.